qui serait de dire, mais c'est bien joli de dire que on est né en Égypte en sortant de l'esclavage, mais comment on n'est pas égyptien? Qu'est-ce qu'on faisait en Égypte? Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on est en Égypte? On ne devrait pas être en Égypte. Donc la question de savoir comment on est arrivé en Égypte. Alors vous vous souvenez, on a vu, je crois qu'on a bien vu déjà ce récit là. Ce récit, c'est le récit de ce qu'on peut appeler une deuxième, enfin une première naissance du peuple juif, la naissance du peuple juif en tant que descendant d'Abraham. Abraham étant le premier à sortir de l'idolâtrie. Abraham, c'est quelqu'un qui a inventé, je ne dirais pas le monothéisme, parce qu'on n'a rien à voir avec le théos en question. On n'a rien à voir avec ce Dieu-là. D'accord ? C'est, comme je dis toujours, le Dieu auquel les gens disent qu'ils ne croient pas, je ne crois pas non plus à ce Dieu-là. D'accord ? Le théos, c'est la version grecque de divinité, ça n'a rien à voir avec Hachem. Hachem n'est pas une divinité de ce type-là. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, c'est bien mono, il est tout seul, mais c'est tout. Après, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et Hachem est tout seul. Il n'y a pas de mots grecs qui conviennent, par définition. Et donc, Abraham, c'est celui qui a commencé, il est sorti de l'idolâtrie, il était idolâtre, lui aussi. Il a compris que l'idolâtrie, ce sont des constructions très, très intelligentes, très... très puissante. Il ne s'agit pas du tout de s'imaginer que ceux qui ont inventé ça étaient des imbéciles. C'est des gens qui ont très bien réfléchi, tout, sauf que, bon, ils ne sont pas arrivés à la bonne solution. Ils ont... voilà. Et donc, Abraham, tout a commencé avec Abraham, et Hachem a promis à Abraham une descendance. Il lui a donné Yitzhak, et à Yitzhak, il a donné deux fils, Esav, Esaü et Yaakov. Et bon, pour les besoins du récit, on explique qu'on a désintéressé Esav en lui donnant Seir, le pays de Seir, la montagne de Seir. Et Yaakov, c'est lui l'héritier d'Yitzhak, mais c'est quoi l'héritage? L'héritage, c'est de descendre en Égypte. Descendre en Égypte, ça, a priori, quand on l'entend descendre en Égypte, on ne voit pas, bon, qu'est-ce qu'il y a de mal. Au moment où Yaakov descend en Égypte, comme vous savez, il descend alors que le vice-roi d'Égypte, c'est son fils, c'est Yosef, et c'est Yosef qui le fait descendre en Égypte. Donc, il y a là aucune... dans cette descente en Égypte, il n'y a pas... Yaakov ne voulait pas descendre, en fait, parce que Yaakov, il a compris que il y avait quelque chose qui était en train de se jouer, à savoir, vous savez bien que dans les termes de l'alliance qu'Hachem a faite avec Abraham Avinu, Hachem a fait avec Abraham Avinu une alliance, c'est-à-dire il a fait un brit. Le mot brit veut dire alliance. Il faut expliquer ce que c'est qu'une alliance. Une alliance, c'est quelque chose qui fait, c'est un lien, qui fait que quand tu touches un des éléments, tu touches son allié aussi. Quand tu touches le clan Israël, tu touches Hachem aussi. C'est ça qu'Hachem a accepté, de considérer que de toucher au clan Israël, c'est quasiment toucher à lui, en fait. C'est aussi une façon de dire que le clan Israël est le peuple d'Hachem. Il est la réalisation de la présence divine. Celui qui est en charge d'assurer la présence divine dans le clan Israël, dans le peuple, dans le monde. Et dans cette alliance, il y avait quelque chose de tout à fait particulier, si vous voulez. D'accord ? C'est que Abraham Avinu a accepté une singularité complète. Alors, c'est normal qu'il accepte une singularité, puisque s'il est le peuple, s'il veut devenir le peuple d'Hachem, comme Hachem est singulier par définition, le Yichud d'Hachem, l'unité, l'unicité d'Hachem, ben, cette singularité doit se retrouver dans le peuple juif. Bonsoir Karine. Ben, tu arrives au milieu, je te salue. Voilà, ça va. Et il a accepté une singularité. Tous les peuples, dans ce qu'ils espéraient au maximum, c'est de devenir des grands peuples, même si en fait, après avoir atteint cet apogée, ils allaient retomber, éventuellement disparaître complètement en tant que peuple. C'est ce qui arrive à toutes les civilisations, comme on sait bien, les civilisations sont mortelles. Et Avraham Avinu, il a choisi, ou il a accepté quelque chose de d'inouï. Je vous explique comment ça vient. Vous savez que si quelqu'un, en cas, si quelqu'un, si A tue B, et que les conditions sont satisfaites, etc., pour qu'on puisse le juger, le condamner, etc., bon, alors il est passible de mort. Et maintenant, ça, c'est quand A a tué B avec l'intention de le tuer. Mais maintenant, si A a tué B sans l'intuition, sans l'intention de le tuer, fait un accident de voiture, ou etc., il l'a tué. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Alors, si les circonstances, bon, je ne veux pas entrer maintenant dans le détail, mais a priori, il va aller dans ce qu'on appelle, il va en exil, il va en galoute. C'est-à-dire, il est exilé, mais c'est un exil dans lequel on lui recrée quasiment toute la situation qui était la sienne là où il a, chez lui, sauf qu'il n'est pas chez lui. Il va y rester le temps que, jusqu'à la mort du Cohen Gadol qui était en service, etc. Donc cette notion, donc cet exil, c'est une forme faible de mort, si vous voulez. De la même manière qu'à l'échelle des individus, on peut considérer, on peut parler d'une mort spirituelle, d'une mort économique, d'une mort sociale, etc. Il y a des morts de tous ordres. Par exemple, quand Eliphaz a poursuivi Yaakov sur l'ordre de son père pour le tuer, il n'a pas tué, il l'a tué économiquement. C'est pour ça que Yaakov est arrivé, il n'avait rien. Quand il est arrivé chez Laban, il n'a rien. Parce qu'Eliphaz lui avait tout pris, mais c'est Yaakov qui lui a dit, ton père t'a ordonné de me tuer, ben tue-moi économiquement. Et il lui a tout pris. Il a complètement dépouillé Yaakov, qui est mort économiquement. C'est une forme de mort. On voit nulle part que, par parenthèse, que Ésaü avait fait un reproche à son fils de ne pas avoir physiquement tué Yaakov. Il a compris, hein, que Ésaü, c'est quelqu'un de super intelligent. Il a compris. Donc il y a cette notion d'exil. Je vous ai expliqué ça parce qu'Abraham a accepté pour son peuple la notion d'exil. Quelque chose. C'est donc au lieu d'envisager une mort consécutive à, disons, à l'apogée, etc. Non, il a dit, moi, pas d'apogée, l'exil. J'accepte l'exil. L'exil, c'est ne pas mourir, en fait. C'est-à-dire que au lieu de devenir très grand, mais pendant un laps de temps défini, on ne devient jamais grand, mais le temps est. Mais ça dure tout le temps. Donc ça, c'est une singularité du peuple juif, en fait. Donc, Yaakov savait qu'il y avait cette promesse, qui avait été, enfin, cette alliance qui a été faite entre Hachem et son grand-père, Abraham. Et il ne voulait pas descendre en Égypte. Il a compris que c'était. Ça sentait pas bon, quoi. Hachem l'a obligé. Il l'a contraint par le biais de la famine, il l'a contraint à descendre. Et comme vous savez, quand les Bnei Israël sont arrivés en Égypte, ils ont été très bien reçus. Yosef, qui en avait les moyens, en fait, il leur a dit, OK, vous allez être bien reçus, dites que vous êtes berger, etc., et installez-vous dans la province de Goshen. Il y avait une province égyptienne qui s'appelle Goshen, Bon, alors celle auquel ça dit quelque chose, Goshen, vous connaissez. Goshen, c'est la province que Paro a donnée à Sarah pour la dédommager. Quand il a rapté Sarah et qu'ensuite il l'a dédommagée, il lui a donné une province. Et la province qu'il lui a donnée, c'est Goshen. Bon, les Bnei Israël ne sont pas arrivés en Égypte en disant à Paro, salut, bonjour, on est chez nous, là, dans cette province. C'est une province égyptienne. Mais Yosef leur a dit, allez là-bas. Parce que quelque part là-bas, si vous restez là-bas, vous êtes plus ou moins en sécurité. Évidemment, ils ne sont pas restés là-bas. Évidemment, comme on a vu la dernière fois, Batimaler et Sotam, ils ont rempli, ils étaient partout en Égypte. Et ça, évidemment, ça a énervé les Égyptiens, etc. Et ça a suscité de la haine. Donc, Yaakov est descendu en Égypte. Mais alors, ben maintenant, avec ça, on fait le lien entre le premier récit qui parle qui dit que nous sommes nés en Égypte. Ben voilà, comme on avait demandé, mais comment on est arrivé en Égypte? On est arrivé parce que Yaakov est descendu en Égypte. Ok, mais il y a encore un trou entre Yaakov et Moshe Rabbeinu, si on veut. Il y a quelques générations entre les deux. Oui, c'est juste. Mais alors, on avait vu que Yaakov n'est pas descendu pour s'y installer, il n'est pas descendu pour devenir égyptien, citoyen égyptien. On est là temporairement, on va repartir dès que la famine sera terminée. Et ils sont descendus à 70 et il y a eu une explosion démographique. Les femmes avaient des sextuplés, le Midrash. Alors, voilà, ça c'est la façon dont ça a évolué. Ensuite, ils sont devenus un grand peuple parce qu'ils sont devenus très nombreux. Distingués, ça veut dire qu'ils étaient reconnaissables. Et ils ont, comme je vous ai dit, ils ont rempli l'Égypte, effectivement. Et à un moment donné, bon, ils étaient mûrs pour sortir d'Égypte. Je m'avais bien dit qu'à un moment donné, après cet exil, ils allaient sortir d'Égypte. Alors, je crois, je vous ai expliqué, mais je vais le répéter. Je vous ai dit, en vérité, ce que je voulais essayer de montrer, c'est qu'on n'a pas affaire à deux récits, mais on a affaire à un premier récit et un deuxième récit. En fait, c'est un seul et long récit. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas dans le bon ordre? Chronologiquement, on devrait marquer, on aurait dû avoir le récit qui correspond au patriarche, c'est-à-dire la Genèse, ce qui est dans la Genèse, dans Sefer Bereshit. Et après, ce qui est dans le Sefer Shemot, dans l'Exode. Or, c'est le contraire. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas dans l'ordre? C'est parce que, comme on a dit, la question, le récit qu'on veut donner, c'est le récit de la naissance en Égypte. Hachem, dans les 10 commandements, dans le premier des 10 commandements, Hachem se présente, il se présente comme tel, il se présente comme « Je suis l'Éternel, ton Dieu, etc., qui t'a fait sortir d'Égypte. » Rabbi Yehuda Halevi, vous savez bien, pose la question, pourquoi Hachem ne se présente-t-il pas comme le créateur du monde? C'est quand même plus d'être le créateur du monde que d'avoir fait sortir un peuple d'Égypte. Bon, alors la réponse, elle est standard, elle est très bien connue. Hachem se présente au clan d'Israël. Donc, il se présente en disant quelque chose que les gens connaissent. Sortir d'Égypte, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est moi qui t'ai sorti d'Égypte. S'il dit « je suis le créateur du monde », personne n'y était à cette création, ça n'évoque rien du tout pour eux, à personne. Donc, se présenter, c'est sûr qu'il faut se présenter en disant quelque chose qui donne à comprendre, qui fait un lien, voilà, ils savent de quoi on parle. Bon. Mais en fait, ok, il faut sortir d'Égypte. Or, tout ce qu'on a vu, nous, c'est, on a expliqué, Yaakov, il est descendu, lui, les générations après, voilà, et il y a explosion démographique, etc. Et puis ensuite, les Bnei Israël vont être mis en esclavage. Ils vont rester 210 ans en Égypte. Une grande partie, ils ont été esclaves. Et maintenant, il faut sortir d'Égypte. Hachem a dit, ils vont sortir avec un grand butin. Alors, le butin, c'est pas l'or et l'argent. Dans le texte, on a l'impression que c'est l'or et l'argent. Non, c'est pas ça le butin essentiel. Le butin, c'est d'être le peuple, de devenir le peuple d'Hachem. C'est ça le grand butin du passage en Égypte. Pourquoi? Parce que Hachem est allé les chercher en Égypte. Moshe Rabbeinu va dire, dans Dvarim, on dit que Hachem est venu prendre Goy Mikerev Goy, un peuple du sein même d'un peuple. Cette naissance du peuple juif en Égypte, ce n'est pas une césarienne. Le clan d'Israël n'était pas séparé des Égyptiens. Il était enfoui dans l'Égypte. Ils étaient quasiment égyptiens. 80% d'entre eux vont refuser de sortir d'Égypte. On est égyptien, qu'est-ce que... De génération, on est égyptien. Et maintenant, ils ne sont même plus esclaves, puisque après les plaies, ils sont libres. Ouais, on va devenir un citoyen égyptien, comme tout le monde. Ils ne voulaient pas sortir. C'était, de toute manière, sortir, c'était un peu de la folie. Mais eux, ils ne voulaient pas sortir. Le problème était plus grave. Le problème, c'est que, je vous ai dit, ils sont quasiment égyptiens. Alors, à quel titre on va les sortir de l'Égypte? Quand ils vont sortir, après la sortie d'Égypte, ils vont se retrouver au bord de la mer. D'accord? Shvi'i Shel Pessah, le septième jour après la sortie d'Égypte, ils sont au bord de la mer. Les Égyptiens sont derrière qui veulent les rattraper. Devant, il y a la mer. Et à gauche et à droite, il y a le désert. Ils sont perdus, complètement perdus. Les Égyptiens vont les rattraper, ils vont les ramener comme esclaves en Égypte. Alors, il y a le fameux miracle de Hachem donne l'ordre à Moshe Rabbeinu et tend ta main sur la mer, et la mer s'ouvre. Il va ouvrir la mer. Et les Bnei Israël vont entrer dans la mer, ils vont traverser la mer à pied sec, les Égyptiens vont s'engouffrer derrière eux, et à ce moment-là, les Bnei Israël remontent sur la terre, ferme, et Moshe Rabbeinu rabat les eaux qui noient l'armée égyptienne. À ce moment-là, le Midrash dit que les anges de service ont protesté auprès d'Hachem. Ils ont dit, c'est pas juste. Ceux-là sont idolâtres et ceux-là sont idolâtres. Pourquoi tu sauves ceux-là et pas ceux-là? Hachem n'a pas de super bonne réponse. Parce que l'histoire de dire, ouais, mais ceux-là, ils vont accepter la Torah, normalement, on ne juge pas en tenant compte de ce qui va se passer dans le futur. Le jugement, il est sur le présent. Qu'est-ce qu'ils sont maintenant? En tout cas, c'est un coup de force d'Hachem. Mais Hachem, par rapport à lui-même, comment ils ont pu sortir d'Égypte? De quel droit il les a sortis quand même? Ils n'avaient aucun mérite pour sortir. Alors Hachem leur a donné un mérite. Il leur a donné deux mitzvot, deux commandements. Un qui est une prolongation ou une autre forme de l'alliance, qui s'appelle Brit Mila. C'est la circoncision. La circoncision, elle a donc été, comme vous savez, ça a été donné à Abraham Avinu. Et normalement, ça descend dans la famille. Et en Égypte, à un moment donné, quand ça marchait pas très bien, les Bnei Israël ont décidé de ne plus pratiquer la circoncision pour essayer de se fondre dans la masse égyptienne. Ça n'a évidemment pas marché. Mais maintenant, Hachem dit, maintenant vous refaites la circoncision. C'est le signe de l'alliance entre Hachem et le peuple juif. Et deuxième mitzvah, deuxième commandement pour leur donner encore un peu plus de mérite, Korban Pessah, donc le sacrifice de l'agneau pascal. Donc vous allez égorger l'animal, un des animaux sacrés de l'Égypte. Évidemment, imaginez que ça se passe aujourd'hui en Inde, et que la mitzvah ce soit d'égorger une de ces vaches sacrées. Parce que les Bnei Israël, ils ont dû mettre de côté un agneau, ostensiblement, et quand les Égyptiens ont dit « qu'est-ce que vous allez faire avec cet agneau ?» On va le tuer, on va l'égorger. On va égorger leur divinité. En Inde, vous finiriez pas la phrase, on est mort, quoi. Tu vas tuer une vache sacrée. On les Bnei Israël, ils ont donc deux mitzvot. Ce sont deux mitzvot dans lesquelles du sang va couler. Quand on fait la circoncision, il y a des gouttes de sang qui coulent. Et dans la shrita, lorsqu'on égorge un animal, il y a de l'arche du sang qui coule. Alors, je vous rappelle que quand Moshe était devant Paro et qu'il a dit, à Paro, let my people go, ok, et Paro n'était pas d'accord, mais il lui a dit, Paro lui a dit, en vérité, ce que tu fais, c'est une mauvaise chose. Parce que les astrologues égyptiens disent que le thème astral des Bnei Israël, c'est le sang. C'est-à-dire qu'en fait, si vous sortez d'Égypte, vous allez mourir. Il y aura la guerre ou autre chose, vous allez mourir. C'est la mort. Le sang va être versé, vous allez mourir. Alors Hachem a donné deux mitzvot qui ont à voir avec le sang, qui sont des mitzvot où du sang coule, mais c'est un sang de vie et pas un sang de mort. Donc ça, c'est la singularité, si vous voulez, du clan Israël. Ils ont ces deux mitzvot, celles auxquelles ça dit quelque chose. Ce sont deux mitzvot positives, c'est-à-dire où on dit de faire quelque chose. Et ce sont les deux seuls mitzvot qui sont sanctionnés, si on ne le fait pas, par la sanction de Karet. Donc, l'idée, quand on ne fait pas une mitzvah, il n'y a pas de sanction. On te dit, mange de la matzah, tu ne manges pas de matzah. Tu as un interdit de manger du chametz. Mais si tu ne manges pas de matzah, tu ne peux pas manger de la matzah. Tu as perdu l'occasion de t'élever, disons. Il n'y a pas de sanction. Il y a deux mitzvot sur lesquelles il y a une sanction, et sanction extrême, parce que c'est la fête, c'est la peine de karet, c'est le retranchement du peuple. C'est assez logique, parce que si tu ne fais pas ces deux mitzvot, tu ne sors pas d'Égypte. Donc c'est normal que si maintenant quelqu'un dit, moi je ne fais pas ces deux mitzvot, ben, tu ne sors pas d'Égypte, donc tu es retranché du peuple. Tu n'appartiens pas au peuple qui sort d'Égypte. Alors, on a expliqué qu'en réalité, ce deuxième récit-là, c'est en réalité un récit qui parle de ce qui se passe avant la naissance. Alors, je suis dans un cours adéquat. Avant la naissance, il y a quelques-unes d'entre elles qui doivent savoir de quoi on parle. Ça s'appelle la grossesse. Je ne connais pas tellement, mais bon, c'est la grossesse. Ça s'appelle une grossesse. Et donc, dans la période de grossesse, on a effectivement toutes sortes de phénomènes qui n'existent pas de cette manière-là en dehors de cette période. Une des choses dont je vous ai parlé, c'est que les Bnei Israël, quand ils sont arrivés, ils étaient très peu nombreux. Ils étaient 70. C'était uniquement la famille de Yaakov. Il y a eu une explosion démographique. Je vous ai dit, il y avait des naissances de sextuplés. Et ils sont, comme dit le verset, aussi nombreux que les étoiles du ciel, etc. Ils sont extrêmement nombreux. Ça veut dire c'est pas très étonnant. D'accord? Quand il s'agit d'un embryon, d'un fœtus, ben, au départ, il y a une cellule, puis ensuite, il y a des milliers de cellules pour fabriquer le bébé en question. Et tout ça, c'est dans 9 mois. Voilà, dans la période de grossesse, il y a un taux de croissance qui est sans commune mesure avec le taux de croissance de l'être humain après la naissance. Et donc, dans cette période-là, qui est une période de grossesse, il y a des phénomènes particuliers qui ont à voir avec la grossesse. Ça représente, c'est la grossesse du peuple juif, en fait. Et le peuple juif va naître effectivement tel quel. Enfin, il va naître. C'est encore plus compliqué, mais il va naître au moment de la sortie d'Égypte, mais il a été conçu au début par Abraham, disons, avec Abraham, et ça s'est développé durant tout le. Si on regarde en termes de texte, ça se développe tout au long du Sefer Bereshit, tout au long de la Genèse. Toute la Genèse, c'est, enfin, sauf la période création du monde. Dès qu'il y a la création de l'homme, ensuite, pratiquement, on est entièrement dans la conception et la grossesse du clan d'Israël. Bon, ça a duré plus que 9 mois, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est un seul récit. Pourquoi il est à l'envers? Parce qu'on ne pose la question de la grossesse que parce que tu me présentes les choses comme une naissance. Alors je te pose la question, mais qu'est-ce qu'il y avait avant la naissance? Pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il y ait quelque chose d'avant. Ben voilà, je te dis maintenant ce qui s'est passé avant. C'est passé avant, c'est effectivement la sortie de l'idolâtrie. Donc là, on pourrait réfléchir sur pourquoi la grossesse, c'est la sortie de l'idolâtrie, et la naissance, c'est la sortie de l'esclavage. Mais ça, je vous laisse, vous avez 2 soirs de Pessah pour y réfléchir. Bon, vous pouvez réfléchir à autre chose aussi, mais vous pouvez réfléchir, je pense que ça vaut la peine d'essayer de réfléchir. Veux revenir sur un point. On a dit, concernant cette période de grossesse, on a dit que ça commence avec Abraham. Abraham a un fils, Yitzhak, qui lui-même a 2 fils, Esav et Yaakov. Et l'héritier d'Abraham, Yitzhak, le troisième, c'est Yaakov. On a désintéressé en quelque sorte Esav en lui donnant Har Seir. Mais Yaakov, voilà, c'est Yaakov. Mais le problème de Yaakov, c'est que Yaakov, il est confronté à Laban, son beau-père. Chazal disent que Laban, c'est pire que Paro. Paro, il voulait seulement tuer les garçons, à la limite. Laban, il voulait tout faire échouer. Et la question qui se pose, c'est effectivement, le récit commence ici, le récit commence par Lavan. C'est Oulmad, Mabikesh Lavan à Arami, la sotte Yaakov Abinu. Regarde, réfléchis. Qu'est-ce que Lavan voulait faire, Lavan, l'araméen, qu'est-ce qu'il voulait faire à Yaakov, notre père? Fais paro lo gazar el al asrarim. Paro, il a donné l'ordre de noyer les garçons au moment où il pensait, les astrologues avaient dit que voilà, c'est le moment où le libérateur des Bnei Israël va naître, ce sera un garçon. Donc, ils ont pris la décision de noyer systématiquement tous les garçons juifs, enfin, Bnei Israël. Vélavan, Bikesh, la Koreta Kol. Lavan, il voulait tout arracher, il a empêcher Yaakov d'épouser la femme qu'il voulait en premier. Après. Ensuite, économiquement, il l'a roulé, il l'a empêché de se développer. Et après, quand Yaakov s'en va, Laban le rattrape et lui dit, mais tout est à moi ici. Tes femmes, ce sont mes filles. tes enfants, ce sont mes enfants. Tes troupeaux sont mes troupeaux, etc. Il nie complètement Jacob. Bon, ça n'a pas empêché Jacob de vivre, mais c'était sa volonté, ça n'a pas marché. Mais la volonté était là. Donc, on parle de cette paracha qui s'appelle Arami Ovedavi. L'araméen a voulu perdre mon père. Et donc, la question qui se pose, évidemment, c'est qu'est-ce que c'est, pourquoi on parle si longuement ou si fortement ou si impérativement de Lavan? Pourquoi c'est par là qu'on commence, en fait? Alors, on dit « il a voulu », « Lavan a voulu ». Il a voulu, mais ça n'a pas marché. Alors, Rashi explique que pour les Rechaïm, pour les mauvais, Hachem ajoute la pensée, la mauvaise pensée à l'action. Alors, en vérité, il n'a rien fait. Là-bas, il n'a pas tué Yaakov, etc. Mais comme il a voulu faire, alors on dit Arami Oved, Avi. L'araméen perd, c'est un présent. C'est pas il a voulu perdre. Il perd en permanence. Et pourquoi cette idée-là d'être Oved, c'est-à-dire d'essayer de détruire le clan d'Israël de façon essentielle, pourquoi est-ce que c'est dit sur Lavan? On peut le dire. On peut le dire, je ne sais pas, sur les Romains quand ils ont massacré tous les Chachamim, on peut le dire sur les Espagnols au moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne, on peut dire des Cosaques de Khmelnytsky, on peut le dire des croisades, des croisés, on peut le dire des gens qui ont voulu nous détruire, il ne manque pas d'exemple. La paracha, elle commence avec Arami Ovedavi et on va jusqu'à l'Égypte, jusqu'à la sortie d'Égypte. Les Chachamim ont dit sur la sortie d'Égypte, on appelle ça Pessah, et comme vous savez, Pessah, ça se décompose et on peut le lire comme si c'était Pessah. La bouche, P c'est la bouche, Sah parle. La bouche parle. C'est-à-dire, la bouche s'est ouverte pour pouvoir parler. En Égypte, c'est les fameux exils de la parole. En Égypte, la bouche était fermée. Qu'est-ce qu'il y a eu en Égypte selon des cris? Ça, on ne parlait pas. Ils criaient de douleur. On ne parle pas en Égypte de dibourim, de paroles. C'est à la sortie d'Égypte qu'on s'est mis à parler. C'est pour ça que le soir du Seder, il s'agit de parler. On parle, toute la soirée, on parle. Parce que c'est ça, la liberté, c'est la liberté de la parole. On est sorti de cet exil de la parole. Dans la parasha de Vayetse, il est dit que Yaakov, quand il est arrivé à Haran, quand il est parti de chez son père, donc parce que Esa voulait le tuer, il est arrivé et il arrive à un puits, il y a les bergers qui sont là-bas. Et c'est curieusement, Yaakov, il s'adresse à eux, il leur demande d'où vous venez, mes frères. Ils disent, on vient de Haran, ils leur demandent, vous connaissez Lavan, le fils de Nahor? Ils disent, on connaît. Est-ce qu'il va bien? Ouais, il va bien. Donc, il y a un dialogue extrêmement court, mais avec des monosyllabes quasiment de la part des bergers. Un mot. Pas monosyllabe, mais un mot. Le Midrash dit qu'ils ont dit, quand il a demandé ce qui va bien, ils ont dit Shalom. Veine Rachel Bito Baha'i Matson. Et voici Rachel, sa fille, elle vient chez la bergère, elle amène le troupeau. Le troupeau de Laban. Le Midrash dit, les bergers ont dit à Yaakov, voilà une femme pas de pétanite, c'est-à-dire une femme qui va bavarder avec toi. Avec elle, tu vas pouvoir parler. Et eux, ils ne voulaient pas lui parler. Ils ont répondu, mais voilà, elle, là, la femme, il y a une femme, là, tu vas pouvoir lui parler. Le Gaon de Vilna dit que le galout, l'exil de Yaakov chez Laban, c'était la même chose que l'exil de Bnei Israël en Égypte. C'est la même torture. Il y a dans le paradis Tzrak la chose suivante. Rachel et Léa, les deux sœurs, les deux filles de Laban, ce sont elles qui ont donc mis au monde, directement ou par servante interposée, les 12 tribus. Et il y a donc une répartition des tribus sur les deux femmes, pas de façon égale, vous savez bien. Elles sont devenues des matriarches, des mères, mais de deux façons différentes. Léa, ça s'appelle Beofan dit Cassia, c'est-à-dire de façon visible. C'est-à-dire de façon cachée, invisible. Oui. Pourquoi? Parce que le Passouk dit Yaakov s'est marié, il pensait qu'il se mariait avec Rachel, et Lavan il a substitué Léa. Et le Passouk dit « Ubaboker vinei Léa ». Et le matin, il s'est aperçu que c'était Léa. Toute la nuit, il a pensé que c'était Rachel, et le matin, il voit que c'est Léa. Donc, Léa, elle est devenue mère, en quelque sorte, de façon cachée. Il ne savait pas, Yaakov, qu'elle devenait mère avec lui, enfin, qu'elle devenait sa femme. Rachel, c'est marqué explicitement, « Rachel bitra haktana ». Yaakov, quand il a dit à Laban qu'il voulait épouser Rachel, il lui a dit, je vais épouser Rachel, ta fille la plus jeune. Pourquoi il a précisé tout ça? Parce que Rachel lui a dit, quand il l'a rencontré la première fois, il a dit, mon père, c'est un roublard. Il est capable de prendre n'importe quelle fille dans la rue et de la baptiser Rachel et il te la donne. Rachel, tu l'as, voilà, tu as Rachel, elle est là. Ah, et maintenant, il peut aussi nous changer nos noms et il peut dire de ma sœur qu'elle s'appelle Rachel. Alors, c'est pour ça qu'Yaakov a dit, je veux Rachel, ta fille, donc pas une fille de la rue, et la Ktana, la plus jeune, parce que Rachel était la plus jeune. Donc, tu ne pourras pas lui donner Léa. Laban, ça lui est égal, il fait ce qu'il veut. Et puis donc. Les deux ont des enfants qui ont des épreuves. Le fils de Léa, enfin un des fils de Léa, Yehuda, il a son épreuve, c'est que il y a un malheur qui l'a poussé dans l'épreuve, en quelque sorte. Et ensuite, il y a eu un bat kol, comme vous savez, un écho, qui a dit « Mimenu yatsu dvarim kushim ». Yehuda, il a donc eu des rapports avec Tamar, mais il ne savait pas que c'était Tamar. Et jusqu'à la fin, et après, quand on a jugé Tamar, on a jugé Tamar, on a considéré qu'elle était adultère, et c'est Hachem, alors en fait, dans le texte, c'est marqué que Yehuda a dit, il a compris que c'était lui le père, il a dit, c'est moi le père, donc il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'adultère, c'est un problème de Yiboum, c'est bon. Mais le Midrash dit que c'est un bat kol, c'est un écho qui a une voix qui a dit « C'est moi qui ai arrangé ces choses pour que ça se déroule de cette manière-là, sans que personne ne comprenne exactement ce qui se passe. » Donc on voit que l'épreuve de Yehuda, elle est le fils de Léa. Léa, c'est une femme qui devient, enfin, telle, qui devient telle, cachée. Yehuda aussi, son épreuve, c'est cachée. Alors que le fils correspondant en quelque sorte de Rachel, Yosef, lui, son épreuve, c'est quelque chose, bon, c'est l'histoire avec Madame Potiphar, et ce qui l'a sauvé, c'est le Dmout Yukno Shel Aviv, c'est l'image de son père, donc quelque chose qui était visible. Et on dit, on explique, ne crois pas que chez lui c'était quelque chose de caché. Lui, il a dû avoir une épreuve qui était clairement une épreuve. Il savait, Madame Potiphar, elle a joué carte sur table, etc. Donc, chez les enfants de Léa, il y a un processus de providence sur les choses cachées, complètement, alors que chez les enfants de Rachel, le processus, il est dévoilé. Et c'est aussi la raison pour laquelle Amalek ne peut tomber que dans les mains des enfants de Rachel. Parce qu'Amalek, c'est ouvert. Tout le monde sait, c'est l'ennemi déclaré du peuple juif. Parce que en vérité, Amalek, c'est donc le petit-fils d'Esav. Et Esav, il dit, mais moi aussi, je suis le fils d'Yitzhak. Moi aussi, je suis le petit-fils d'Abraham. J'ai les mêmes droits, le même yichus que Yaakov. J'ai des forces. C'est vrai que c'est caché, ça ne se voit pas aussi bien, mais j'en ai autant. C'est la raison pour laquelle la lutte qui est faite par les fils de Yehuda, disons par c'est une lutte qui se fait dans le domaine des actions. Et donc ça c'est pour les fils de Rachel qui se fait ouvertement. Il y avait donc deux filles chez Lavan. Une qui a eu des enfants qui vont devenir les chefs de tribu, pour lesquels la pensée d'Hachem qui les concerne est cachée. Et l'autre pour laquelle les choses sont ouvertes. Connu. Ça, c'est Rachel. Et c'est la raison pour laquelle la partie ouverte, clairement, qui se fait à, disons, en plein jour, de Yaakov, c'est un travail avec Rachel. La racine, c'est que Yaakov, il est en galoute chez Lavan, pour sortir de chez Lavan la notion d'Israël. C'est son deuxième nom. Il deviendra, c'est en sortant de chez Lavan qu'il a la lutte contre l'ange d'Ésav, et qu'à ce moment-là, il change de nom. Enfin, on lui donne un deuxième nom. Il s'appelle aussi Israël. Yaakov s'appelle aussi Israël. Il faut sortir le Adam, c'est-à-dire Adam, c'est l'être parlant par excellence. Il faut donc sortir l'être parlant de là-bas, sortir de chez Lavan. Parce que, puisque la parole, c'est la caractéristique de l'être humain. Donc, la puissance qui permet d'exprimer la gloire divine dans le monde, en vérité, kol haolam maleh mikvada shamayim. En vérité, la gloire divine est là, shamayim mesaprim kvod kel. Les cieux, dit David Ameler, racontent la gloire divine si on regarde le macro, enfin les grandes dimensions. On voit très bien la gloire divine, en fait. Mais celui qui doit dévoiler les choses avec sa parole, c'est l'homme, évidemment. Les cieux racontent. C'est-à-dire quand tu vois la perfection des systèmes, etc., tu vois bien la perfection, donc tu vois la gloire divine. Mais la raconter en parole, ça, c'est le travail de l'homme. Celui qui s'oppose à ce dévoilement-là par la parole, c'est Lavan. C'est celui qui il essaie de mettre du flou partout. Il essaie d'empêcher la parole. Comment est-ce qu'il fait pour que la parole ne fonctionne pas? Il change sans arrêt sa parole. Il dit, voilà, ton salaire, ce sera ça. Demain, il dit, non, le salaire, ce sera autre chose. Donc, il montre tout à fait que la parole peut dire tout et son contraire. Et donc, il y a plus, la parole perd de sa puissance en réalité, puisqu'elle est utilisée pour dire n'importe quoi, changer tout le temps. Au début, il a dit on va fixer ton salaire, mais en fait, il ne le fixe jamais. Ça, c'est comme ça que fonctionne toute la ruse de Lavan. Donc, Yaakov, lui, doit sortir de là Israël, c'est-à-dire l'homme qui parle. Donc, dans l'ordre de construction des différentes tribus, il y en a pour lesquels la façon de les diriger, c'est comme ce qui a été dit à Yehuda, « Mimeni yashut varim kushim ». Les choses viennent de moi, c'est Hachem qui parle évidemment, ce sont les choses cachées, c'est moi celui qui tire les ficelles. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle une anhaga anisteret. C'est une façon cachée de gouverner le monde. C'est cette façon cachée de gouverner le monde qui va amener le Mashiach. Le Mashiach, il ne vient pas de façon évidente. C'est un processus complètement caché. D'accord ? Si vous regardez le peu de choses qu'on sait sur l'ascendance du Mashiach, c'est toujours dans les marges de la halakha, etc. On ne voit pas quelque chose de clair, on ne voit pas la pleine lumière. La force d'Ebnei Rachel, c'est justement dans la clarté, dans l'ouverture complète. Arami Ovedavi, dire que l'araméen a voulu perdre mon père, enfin il perd mon père en fait, chez lui, le dibour, chez Lavan, non, le dibour, la parole, ne dévoile rien de clair. Au contraire, elle amène du flou. C'est pas clair, en fait, puisqu'il change sans arrêt. Mais l'homme a été créé pour dévoiler. C'est ça son travail. Et donc, il faut impérativement sortir la force du dibour, la force de la parole. À ce moment-là, ce sera le Pessah. La bouche parle. C'est ça, Pessah. On sort de ce flou. La bouche parle vraiment. Alors, on dit, quand est-ce que, effectivement, elle parle vraiment? C'est quoi parler vraiment? Alors, Chazal disent, c'est que chez Mehalalim ou Meshaprim. C'est quand on dit la gloire divine, quand on raconte, quand on loue Hachem. Et c'est pour ça qu'on dit, Kol hamarbeh mesaper. Plus on raconte la sortie d'Égypte, mieux c'est. Ou bien on dit, Onim alav dvarim arbeh. On a dit sur la matzah, pourquoi ça s'appelle l'Echem Oni? Parce que on dit, on répond, enfin, on dit beaucoup de choses. On n'arrête pas de parler sur la matzah. Je vous ai dit, tout le seder, sauf les quelques cas où on prend un verre de vin en main, les matzot doivent être découvertes. On parle sur les matzot. Ça, c'est la fin du galout. C'est la fin de l'exil. C'est cet exil qui a commencé avec Lavan, qui empêche la parole, en fait, qui empêche la parole d'amener de la clarté, elle se termine par la parole qui amène la clarté. Tout ça, c'est chez Lavan. Akadosh Baruch Hu, chez lui, chez Lavan, il additionne la pensée, la mauvaise pensée à l'action. Pourquoi? Parce que dans son monde, dans le monde de Lavan, il y a seulement les pensées. Il n'y a pas de dévoilement par la parole, puisque sa parole, c'est n'importe quoi. Alors, il faut regarder ce à quoi il pense. Chez lui, sa pensée, c'est il est en permanence Arami Oved Avi. L'homme, ce n'est pas il a. Non. Ce n'est pas simplement, ce n'est pas une action qui a eu lieu une fois. C'est son essence. C'est ce qu'il est, Lavan. Bon, c'est vrai que ça ne s'exprime pas. Bon, Hachem, il n'est pas capable de l'exprimer. Et donc, la réalité de la création de l'homme qui parle, en réalité, c'est ça, la gloire divine, c'est d'avoir un être qui va pouvoir parler, Hachem, qui va pouvoir parler, dire qu'Hachem est dans le monde, dire la gloire d'Hachem dans le monde. C'est ça la grandeur de l'être humain et c'est ça le travail de naissance du peuple juif. Le peuple juif, en fait, il a pour fonction de raconter la gloire divine. Alors, c'est pour ça qu'on a déjà, je crois que je vous ai déjà parlé de tout ça. La vérité, je ne me souviens pas, c'est comme je l'ai raconté mon chiot un peu partout. Ce que je ne sais pas, c'est où j'en suis resté avec vous. Est-ce qu'on a déjà parlé des Makot avec vous? Est-ce qu'elle est? Il y a quelqu'un qui sait?
Quelle on a parlé des macottes.
On a parlé des Makot, on a parlé.
כן, זה היד, בגלל היד חמש.
D'accord, c'est d'accord. Alors, je ne reviens pas là-dessus. Alors, je passe directement à Rabban Gamliel. On n'a pas parlé de Rabban Gamliel. Si?
Non.
Non, voilà. Heureusement que tu es là, tu veux aller. D'accord.
Voilà. À la Mishmar.
Okay. Alors, Rabban Gamliel dit que toute personne qui n'a pas dit ces trois choses lors de la soirée du Seder, il ne s'est pas acquitté de la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Il doit dire Pessah, Matzah, Maror. Pessah, le Korban Pessah, l'agneau pascal, la matzah et le maror, les herbes amères. Il ne s'agit pas seulement de les dire, il faut les montrer. Alors, on a l'habitude de prendre le zroa, l'os qui est sur le plat, mais il ne faut pas le prendre dans la main. Il faut le montrer seulement avec le doigt. Pour des raisons qui n'ont rien à voir, enfin, c'est technique, on ne veut pas faire comme s'il y avait de la viande, qu'il y avait de la gdoucha, etc. On ne veut pas entrer là-dedans. Donc, l'os, on le montre, on ne le prend pas en main. Par contre, la matzah, on la prend en main et on explique la matzah. Et le maror, on prend en main et on explique. Qu'est-ce qu'on explique? On va expliquer ce que c'est que le Pessah. Pessah, c'est le nom du korban, du sacrifice, qui est donc on sacrifie un agneau. Alors, on a vu le mot de Pessah. On a vu que ça pouvait se décomposer en Pessah, mais son premier sens, c'est quoi? Ce nom-là, il lui vient de la chose suivante. La dixième plaie, c'est donc la mort des premiers-nés, égyptiens. Comment est-ce qu'elle a eu lieu, cette mort des premiers-nés? C'est Hachem est apparu dans le monde. C'est pour ça qu'il dit « Lo alide malar, shliar, saraf », c'est moi-même, dit Hachem. Il apparaît. Et donc, si vous voulez, c'est comme s'il y a eu tout à coup dans le monde une lumière ou une énergie tellement puissante qu'on ne pouvait pas supporter, on allait mourir. Pourquoi est-ce que, le Maharal explique, pourquoi est-ce que seuls les premiers-nés sont morts? Le Maharal dit que les premiers-nés, ils ont une sensibilité plus exacerbée. Bon, je ne sais pas, c'est le Maharal. Et ensuite, pourquoi les premiers-nés des Bnei Israël sont pas morts? Ça, c'est un chesed d'Hachem. Et c'est ça qui donne son nom au Corban. Parce qu'on va dire, Akadosh Baruch Hu, il a passé par-dessus les maisons des Bnei Israël et il n'a frappé les premiers-nés que égyptiens. Alors, son idée de passer par-dessus, Rashi dit que, Rashi le traduit en vieux français, et il dit, il a fait un pas qui passe par-dessus les montagnes, par-dessus les maisons. Et ce qui est intéressant, c'est que Rashi, quand il écrit le mot « pas », il écrit avec des lettres hébraïques, mais il écrit, disons, si je le mets en lettres latines, il écrit « P-A-S-Q » ou « C » si vous voulez. Il met à la fin du mot « pasque », ça donne le pascal. Sinon, on ne comprend jamais comment ça passe. Comment est-ce qu'on passe de Pessah à pascal? Où est le k? Il est là, Rashi le dit. C'est curieux, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé dans un dictionnaire de vieux français. En tout cas, Rashi traduit Pessah par pasque. Un pas. Donc, c'est un pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est un pas? Ça veut dire que quand il y avait tellement de lumière qui était éblouissante et qui était destructrice, Hachem il fait un pas pour s'imaginer ce que c'est qu'un pas, c'est-à-dire ça dégage un espace de liberté, un espace sous, en quelque sorte, sous le pas. Donc les premiers-nés des Bnei Israël, ils ont été sauvés comme ça, parce qu'ils étaient à l'abri grâce au pas. Le pas, c'est comme une arche, si vous voulez, de ponce sous laquelle on pouvait se protéger de ce trop-plein de lumière, d'énergie. Et c'est pour ça que les premiers-nés des Bnei Israël ne sont pas morts. Donc ça, c'est pourquoi ça s'appelle un pasque. Maintenant, on demande pourquoi est-ce qu'on mange le Korban Pessah, et on répond parce qu'Hachem a passé par-dessus les maisons des Bnei Israël. Très bien. Alors, il y a un problème, c'est qu'il y a un midrash qui dit qu'Avraham, lui aussi, il a mangé le Korban Pessah. Alors, vous comprenez bien qu'Avraham, il n'a pas mangé le Korban Pessah parce que plusieurs générations plus tard, Hachem va passer par-dessus les maisons des Bnei Israël. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors, l'idée, c'est la suivante. Si on regarde la halakha, la loi, qui nous dit comment on prépare le Korban Pessah. Alors, on trouve qu'il faut prendre donc un agneau, et puis, il y a trois conditions qui sont très importantes. Ça, le Korban Pessah, il se mange en groupe. Littéralement, c'est écrit dans la Torah, ça se mange par maison, par maisonnée, si vous voulez, mais en général, si la maison est trop petite, on n'a pas de quoi manger tout un agneau en une soirée, surtout qu'en fait, on le mange à la fin du repas, en réalité. Alors, la Torah, elle dit, ben, on n'a qu'à s'associer avec les voisins. Donc, l'idée, ce sera, supposer que, on va, pour avoir une idée d'ordre de grandeur, on va acheter un agneau qui donnerait, je ne sais pas moi, 9 kilos de viande à manger. Ça va, Annie, ça existe, ouais, 9 kilos, ce n'est pas trop. C'est bon, allons-y. Donc, un kezaït, la grosseur d'une olive, c'est ça qu'on est obligé de manger, de Korban Pessah, disons que c'est 30 grammes, parce que ça m'arrange pour le calcul. Ça veut dire que maintenant, si chacun doit en manger, il faut 300 personnes. Il y a 300 personnes qui mangent chacun 30 grammes. Ça va nous faire 9 kilos. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal. C'est beaucoup de monde, 300 personnes. Alors bon, il y a peut-être des agneaux plus petits. Je ne sais pas, la moitié, ça ferait encore. Même la moitié, à 4 kilos 500, ça ferait quand même 150 personnes. Ce n'est pas non plus négligeable. Donc, on va former un groupe. Ces gens-là vont en quelque sorte s'inscrire sur ce corban. Ils vont l'acheter en commun et ils vont décider de le manger ensemble. Ça doit être fait le 14 Nissan dans l'après-midi. Donc, l'après-midi avant la soirée de Seder, c'est là qu'on va faire la shrita du Korban Pessah. Et cette shrita, elle est faite pour ce groupe-là. Ne pourront manger de ce korban que les gens qui se sont inscrits sur ce korban. Et eux-mêmes, ils ne vont pas les manger ailleurs, parce qu'on compte sur eux pour manger. Parce que normalement, il faudrait manger la totalité de la viande et qu'il n'en reste rien. S'il en reste, on va être obligé de le brûler, c'est un peu embêtant. On voudrait qu'il n'en reste rien. Première chose, donc, ça se mange en groupe. Deuxième chose, il est interdit de casser les os pour sucer la moelle. On ne peut pas prendre un os, le casser pour sucer la moelle. Troisième chose, il doit être grillé à cœur. C'est-à-dire, on peut pas, ça doit être de la viande grillée. Et pour que ça soit parfaitement grillé, on ne prendra pas une broche en métal. Parce que sur une broche en métal, la broche va chauffer. Et la viande qui sera à contact de la broche va cuire, elle ne va pas griller. Donc, on prendra une broche qui est en arbre l'arbre, c'est le grenadier, une broche de grenadier. Pourquoi c'est, en tout cas, celle-là, je savais que, voilà. Et donc, là, ça va vraiment griller de l'intérieur aussi. Je sais pas si ce sera tellement bon à manger, en fait. Mais bon, c'était pas le but de l'exercice. Je veux dire, c'est pas un problème de concours des meilleurs chefs. Donc, on va manger ça. On va le manger grillé à cœur. Et si vous regardez ces trois halakhot, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, le Maharal le fait remarquer, par exemple, vous voyez que tout tourne autour du chiffre 1. C'est un groupe, un os, on n'a pas le droit d'en faire deux, et il faut griller à cœur parce que la viande grillée de cette manière-là, c'est la forme la plus compacte de la viande. Donc le plus un possible. Si on la cuit ou si on la bouillit, etc., évidemment, ça prend beaucoup plus de place. C'est pas aussi compact. Donc tout ça proclame le un. Alors, on comprend le Midrash qui dit qu'Avraham Avinu lui aussi, il a mangé le Korban Pessah. Bien sûr qu'Abraham, il n'a pas mangé le Korban Pessah, parce que des siècles plus tard, on allait, Hachem allait passer par-dessus les maisons d'Ebné Israël en Égypte. Alors pourquoi Abraham il mange le Korban Pessah? Parce que le Korban Pessah, il proclame l'unité. Il proclame le fait que Hachem est Echad, le un. Tout ce qui... Alors, une fois par an, Abraham Avinu proclamait cette notion d'unité, c'est ce un. Et nous aussi, on proclame le un. Mais pourquoi alors on dit qu'on le mange parce qu'il a passé par-dessus, on devrait dire on le mange parce que ça proclame le un. Alors, l'idée, c'est que Hachem est Echad, Hachem est un, il est unique, son unicité, son caractère unique, sa singularité absolue, si vous voulez. Donc, c'est normal que le peuple d'Hachem soit aussi un peuple unique, complètement singulier. Sinon, il ne reflèterait pas le fait qu'il est le peuple d'Hachem. Or, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Hachem, en passant par-dessus les maisons, en épargnant les premiers-nés d'Ebné Israël, il a singularisé le peuple d'Israël, le peuple juif en fait. Bon, il l'a mis en évidence qu'il avait un statut à part. Tous les premiers-nés sont morts, sauf les premiers-nés d'Ebné Israël. Et donc, du coup, Hachem a proclamé l'unité du peuple d'Israël, du peuple juif. Or, je vous avais déjà expliqué que dans les tefillines qu'on met, dans la tefila, il y a quatre parchiot, quatre petits textes, et un des textes, c'est celui qui est bien connu, du Shema Israël. Écoute, dans lequel on proclame qu'Hachem est Echad, Hachem est un. Donc, les Bnei Israël, quand ils mettent les tefillines sur leur tête, sur leurs bras, ils proclament l'unité d'Hachem. La Gemara dit que Hachem, il met aussi les tefillines. Et la Gemara, elle demande qu'est-ce qui est écrit dans les tefillines d'Hachem. Dans les tefillines des hommes, c'est marqué qu'Hachem est Echad. Qu'est-ce qui est écrit dans les tefillines d'Hachem? Dans les tefillines d'Hachem, c'est marqué que le peuple juif est Echad. Mi ki amcha Israël goy Echad ba'aretz. Par conséquent, proclamer l'unité du clan Israël, du peuple juif, ou proclamer l'unité d'Hachem, d'une certaine manière, c'est la même chose. Et donc, quand nous proclamons l'unité du peuple, la singularité, unité, ça veut dire ici, unité et unicité du peuple, en disant qu'Hachem a singularisé le peuple en l'épargnant les premiers-nés, on proclame l'unité et l'unicité du peuple, c'est la même chose que de proclamer l'unité et l'unicité d'Hachem. D'accord? Alors, nous, on proclame la version historique, parce que c'est plus facile à penser. Penser qu'Hachem est rad d'un un qui n'est pas un un comparable à quoi que ce soit, c'est pas l'unité d'un corps, c'est même pas un corps simple, etc. C'est un un qui n'existe jamais, nulle part ailleurs que chez Hachem. C'est très abstrait, etc. Tandis que, voilà, on a proclamé l'unité du peuple juif, et comment? Ben, en passant par-dessus, et on met l'accent qu'il a passé par-dessus, et n'importe qui réfléchit comprend bien que c'est une singularité, et comprend qu'on proclame l'unité. Donc, ça veut dire qu'on proclame les choses, des fois, par la halakha de la chose, par la loi qui gouverne la chose en elle-même. Donc, c'est ça qu'il faut. Il faut manger le Korban Pessah, normalement quand on pouvait le manger, quand on avait des sacrifices. Et maintenant, nous n'avons pas cela, mais on proclame que c'est Pessah et qu'on mangerait le Korban Pessah. On va substituer au Korban Pessah de la Matzah, puisque le Korban Pessah il se mange à la fin du repas. Et comme vous savez, on va substituer au Korban Pessah que nous n'avons pas, la fameuse afikoman, c'est-à-dire une matzah qui, elle, n'aura pas été sur la table bombardée par les paroles qui ont pour but de transformer la matzah pain des pauvres et de misère en une matzah, pain de la liberté. C'est là, la ficomane, elle est emballée, vous vous souvenez, depuis le début, on l'a mise de côté, elle est là comme dessert, etc. Ok, on va jouer avec la matzah, avec cette matzah-là, avec la ficomane, comme si c'était un korban pesach, comme si c'était la viande du korban pesach. Ensuite, il faut proclamer la matzah. Il faut proclamer matzah. Matzah zu she'anu ochlim al shumma. Cette matzah, nous la mangeons pourquoi? Alors, tout le monde connaît, c'est l'histoire, c'est les femmes n'ont pas préparé la matzah. Ils n'ont pas préparé le pain, vous imaginez. D'accord? Ils n'ont pas préparé. Ça n'a pas eu le temps de monter, alors ils ont dû manger de la matzah. Ils sont libres, ils sortent libérés de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'on mange? La même chose que ce qu'on mangeait quand on était esclave. Cette fois-ci, c'est fait par les femmes juives pour elles-mêmes et pour toute leur famille. Seulement, elles n'ont pas eu le temps de préparer. Qu'est-ce que ce truc-là? Elles n'ont pas eu le temps de préparer. Ça fait longtemps qu'ils savent quand ils vont sortir. Pourquoi ils n'ont pas le temps de préparer? Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Alors, je crois que la raison pour laquelle ils n'ont pas préparé, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je crois qu'ils n'ont pas préparé pour la bonne et simple raison qu'ils ne savaient pas ce que voulait dire sortir d'Égypte. En Kitsour, ça ne voulait rien dire du tout. Sortir d'Égypte, c'est quoi ça? Ils sont depuis déjà des générations, ils sont esclaves en Égypte. Sortir d'Égypte, c'est quoi sortir d'Égypte? Personne n'est jamais sorti d'Égypte. Un peuple sortir d'Égypte. Alors, il y a un petit groupe de gens, un cinquième du peuple, qui a dit, oh, d'accord, on va y aller, on va sortir. Mais on peut dire sans se tromper qu'ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Et par conséquent, ne sachant pas du tout, ils savaient qu'on allait sortir. On a dit on va sortir, tel et tel. Mais ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire sortir d'Égypte. Vous comprenez, si on vous dit aujourd'hui que vous êtes invité à aller, je ne sais pas, faire une excursion en Antarctique, vous allez dire, ah, qu'est-ce que je vais faire? Bon, il faut prendre de la graisse pour protéger. Il faut, quand je vais en montagne très haut, que j'ai bien froid, qu'est-ce que je prends? Je prends deux pulls et je sais pas, et ma doudoune, etc. Je vais prendre deux doudounes et quatre pulls. D'accord? Ça servira ou ça servira pas, peu importe. Mais au moins, vous pouvez vous imaginer ce qu'il faudrait prendre pour aller dans l'Antarctique. Mais si on vous dit vous allez sortir d'Égypte, ça ne dit rien du tout à personne. Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Alors, ils n'ont rien préparé. Quand on a dit on part, en catastrophe, ils ont jeté un peu de farine dans de l'eau et ils ont mis ça dans le feu. Et puis, ça a donné ce que ça a donné, ce que ça avait le temps de donner à ce moment-là. OK. Bon, d'accord. Voilà. Alors, on mange la matzah parce que nos ancêtres, ils ont été pris de court quand ils sont sortis tellement rapidement qu'ils n'ont pas eu le temps. Elles n'ont pas eu le temps, c'est les femmes. Hein. Les femmes n'ont pas eu le temps de faire du pain. Un scandale, je veux dire. C'est bon, d'accord. Et alors, Avraham Avinu aussi, il a mangé la matzah. Pourquoi? Parce que les femmes n'ont pas le temps de faire la matzah. Je crois, je n'ai pas de preuve, mais je crois que la matzah, ça représente l'impensable. La matzah, ça montre ici, ne pas avoir préparé du pain, ça veut dire que c'est impensable. Mais c'est sûr qu'elles auraient préparé du pain si c'était pensable. On se dit, on va partir, bon, alors, ils ne vont pas préparer pour 10 jours de pain, mais peut-être pour 5 jours de pain. Ce n'était pas prévu. Ils n'allaient pas tellement loin. Hein. Normalement, en temps normal, en 11 jours, ils étaient en Eretz Israël. Ce n'était pas censé durer 40 ans. Et avec un peu de kvissat aderech, s'ils se conduisent bien, Ça doit aller très vite. Donc, ne pas préparer le pain, c'est le symbole de ce n'était pas pensable pour moi. Et de la même manière pour Avraham Avinu, ce qu'Avraham Avinu propose, c'est aussi impensable. À son époque, penser contre l'idolâtrie, si vous voulez, penser autre chose que l'idolâtrie, pas seulement qu'on passera d'un polythéisme à un monothéisme, c'est pas de ça du tout qu'il s'agit. C'est autre chose qui n'a rien à voir. C'était vraiment impensable. Je pense qu'Avraham Avinu, s'il a mangé ça, c'est vraiment le minimum du minimum. C'est le pain, c'est la nourriture de base. Aussi basique que possible. De l'eau, de la farine et du feu. On ne peut pas faire plus simple. Et puis bon, du Maror, c'est les souffrances. Avraham Avinu, il leur fait suffisamment de souffrances. Là, il n'avait pas de difficulté. Nous n'avons pas de difficulté à comprendre qu'Avraham Avinu a mangé du Maror aussi. OK, donc pour Rav Gamliel, il faut dire et penser tout ça. Et si on ne l'a pas fait, on ne s'est pas acquitté du récit. Tout le récit ne peut se penser que... Enfin, doit contenir ça, dit Rav Gamliel. Et ensuite, on dit cette idée que c'est dans le passage que c'est marqué, et c'est une réponse qu'on donne dans les quatre fils. Bavourze, c'est pour cela. Pour être assis à table et raconter, et etc., que Hachem, Asa, Hachem, Li, Betseti, Nimitzraim. Bon, ça veut dire quoi? Je dois dire comme ça à mon fils? Hachem m'a fait pour moi, quand je suis sorti d'Égypte, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es sorti d'Égypte, toi? Alors, papa, quand est-ce que tu es sorti d'Égypte? Raconte-nous ça. Alors, il y a une mitzvah, Chayav Adam, donc dans chaque génération, l'homme doit se considérer comme s'il était sorti lui-même d'Égypte. Pas de son Égypte, ses différences, ses... Non, on est sorti d'Égypte. Imagine-toi que tu es sorti d'Égypte. C'est qui nous? On ne te dit pas que tu es sorti d'Égypte. Qui nous? Comme si. Donc, il s'agit de se penser. Penser que, voilà, je suis sorti d'Égypte. Essayer de se représenter l'état d'esprit dans lequel je serais sortant d'Égypte, en fait. Alors, comme vous savez bien, et, en fait, il y a deux Nusraot, Il y a deux versions. Il y a une version qui est, comme je vous l'ai dit, Chayav Adam, Lirot et Atzmo Keilu Yatsa Mitzrayim. Et il y a la version du Rambam, qui est la version qui est adoptée dans les Agadot Sfarad, Sar Sfarad. C'est Chayav Adam, non pas Lirot et Atzmo, mais Leharot et Atzmo. Pas se considérer comme, mais se manifester comme. Donc, il y a un côté théâtral, en quelque sorte. Il y a un côté mise en scène. Le harot et atzmo. Alors, il y a ces idées de on prend un baluchon, une serviette dans laquelle il y a un morceau de matzah et on met sur son dos et on tourne autour de la table. Enfin, chacun ajoute son côté manifestation. Le harot et atzmo. C'est important de jouer. Ça veut dire que le soir du Seder, il y a la parole, il y a à manger, ça fait partie du Seder, ça fait partie de l'ordre du jour, cet ordre exceptionnel qui fait que on mange un peu tard, après avoir subi tout ce récit, D'accord? Il y a beaucoup de gens qui commencent déjà au bout d'un certain temps à se dire que bah, finalement ils ont faim et que voilà, font des. Il y a des gens qui voudraient bien prendre des raccourcis, quoi. Il y a d'autres endroits où on lit la Gada à toute vitesse. Hein. C'est pas, et pas des gens. Il y a des gens très bien. Ils ont, racontent pas, ils font pas ça. Ça prend pas de temps. Très vite. Et donc, voilà. C'est ça qu'il faut garder. Et c'est important, comme on a vu, que la parole par excellence, c'est le Hallel, c'est louer Hachem. Alors, c'est ce qu'on dit, le Fichach, Anachnu Chayavim, le Hodot, le Hallel, on doit être reconnaissant à Hachem, on doit le louer, etc. Et on va dire deux chapitres du Hallel, les deux premiers chapitres qui concernent, qui parlent du passé, entre autres de la Yitziat Mitzrayim, le deuxième paragraphe, qui c'est de Betzet Israël et Mitzrayim. Bon, cette partie du Hallel, on l'a dit avant le repas. Donc, on loue Hachem par rapport à la sortie d'Égypte en particulier. Ensuite, là-dessus, il y a une bracha sur la Geoula. C'est une longue bracha dans laquelle on parle de la Geoula et dans laquelle on demande encore de la Geoula. Vous savez, hein, j'avais fait un chiot une fois à Mlai Malka sur encore. L'ordinaire aux enfants, on leur dit quand... on leur donne quelque chose, et eux, ils comprennent très bien qu'il faut demander encore. Alors, ils demandent encore. Et on leur dit non, il ne faut pas être trop gourmand, nanana. Mais nous, on demande encore. On demande encore de la Geoula. D'accord? Ça veut dire qu'on demande à Hachem la grande Geoula. Dans la bracha, on le fait. On demande encore de la Geoula. À ce moment-là, on fait la bracha sur le deuxième kos, sur le deuxième vers. Et on passe à la partie, la suite, c'est Rortzo, Motsi, Matza, Maror, Korer, et le repas, Shulchan Aruch. Je ne sais pas, est-ce que j'ai encore un cours avec vous? C'est dimanche. Oui, j'ai encore un cours mercredi. Bon, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si on fera des travaux pratiques sur manger. Chacune apporte... une partie du repas, les mangent devant les autres pour leur montrer comment on fait. Je ne sais pas comment on fait. Si c'était en présentiel, je vous aurais dit d'apporter à manger, mais là, quand ce n'est pas en présentiel, on est obligé. Je ne sais pas comment on peut faire. On est embêté. OK, alors on va s'arrêter là pour l'instant et on continuera, Emir Tsachem. On terminera mercredi.